Comme chaque année, le 24 avril, la communauté arménienne de Toulouse a commémoré le génocide qui a causé la mort de plus d'un million d'Arméniens. C'était en 1915. Alors ce matin, je vous propose de faire mieux connaissance avec ce peuple arménien dont, je le rappelle, la majorité des membres vit en dehors de ses frontières. Un peuple qui a fondé aussi la première nation chrétienne du monde. Bonjour Gérard Karagosyan.
Oui, bonjour à vous Isabelle.
Vous êtes vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse, Midi-Pyrénées, c'est vous qui allez nous servir de guide dans cette communauté ce matin. Alors Gérard, cette année, des manifestations ont eu lieu en petit comité, mais elles ont été maintenues. Je crois qu'il y a eu un dépôt de gerbes par le préfet. C'est important pour vous de vous souvenir, pour quelles raisons ?
Écoutez, c'est important. La raison, elle est très simple. Nous sommes une diaspora. Mon arrière-grand-père est arrivé en France en 1923. Il était prêtre arménien, de l'Église apostolique arménienne. Ouais. Il avait 5 enfants. Et si vous voulez, mon grand-père a épousé une orpheline qui avait été dans un orphelinat au Liban et qui ne connaissait même pas son histoire, ni son âge, ni son nom. Mmh. Cette grand-mère m'a élevé en partie et dans ses yeux, je voyais de la détresse et je comprenais que ce qui s'était passé avait été sûrement horrible. Elle n'osait pas le raconter, mais par ailleurs, en se documentant ou en discutant avec mon grand-père, j'avais pas mal d'éléments sur les événements et je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a fait souffrir, qui m'a traumatisé. Et chaque année, le 24 avril, je pense un peu à tous ces Arméniens qui ont été déportés, qui ont été massacrés, qui ont perdu leurs biens et qui sont allés dans tous les pays du monde, puisque la diaspora aujourd'hui fait environ 8 millions d'Arméniens. Mmh. Voilà la raison. Et pour moi, il est impossible le 24 avril de ne pas penser à ces gens-là et de ne pas faire quelque chose et ne pas commémorer ce génocide. Voilà.
Alors cette année, vous nous faites frissonner, Gérard Karagosyan, ce matin. Cette année, le jour de la commémoration, ce samedi, le jour de la commémoration, il s'est passé quelque chose, un événement important, j'imagine. Les États-Unis ont pour la première fois reconnu le génocide plus de 100 ans après. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors, vous savez, samedi, donc il y a eu la manifestation, la commémoration à 11h avec le préfet, la mairie, la région et le département. Georges Méric, le président, était présent. Et c'était une manifestation réduite à cause de la pandémie, puisque c'est en fait une manifestation officielle en France, cette commémoration. Mais malgré tout, il y a des gens qui sont venus tout autour avec des fleurs, des petits bouquets, et ils les ont déposés après. Voilà. Et tout au long de la journée, on préparait une table ronde donc au CD31, donc au département. C'était un gros travail. Et toute la journée, on était pendus au téléphone pour voir si effectivement Joe Biden avait reconnu le génocide arménien et il avait prononcé le mot de génocide. L'information est tombée autour de 18h, et puisqu'il y a un décalage avec les États-Unis. Mmh. Et pour nous, c'était vraiment une très très grande victoire parce que les États-Unis ont souvent dit que, les présidents américains ont souvent dit « je vais reconnaître le génocide arménien » lors des élections. Ça a été le cas d'Obama, mais il se trouve que la réalpolitik a fait qu'Obama ne l'a pas fait. Mmh. Quand le Congrès a voté en 2019, en décembre, la reconnaissance du génocide, Donald Trump n'a pas voulu l'annoncer. Mmh. Il a parlé de massacre. Voilà. Et Joe Biden avait promis lors des élections aux Arméniens qu'il reconnaîtrait le génocide arménien. Et on a été très étonnés il y a quelques jours d'apprendre qu'il était possible que l'on entende cette phrase-là, de reconnaissance du génocide par Joe Biden. Et elle est arrivée le 24 avril. Alors c'était quelque chose d'absolument
plus symbolique.
Inouï. Mmh. Oui, et je puis vous dire que le téléphone a fonctionné dans la diaspora et que c'était un immense bonheur d'entendre la plus grande puissance du monde aujourd'hui dire ce génocide a existé. Et bien évidemment, on sait très bien que derrière tout ça, entre la Turquie et les États-Unis,
ça risque de se tendre.
Ça ne sera pas si simple. Mmh. Voilà.
Alors la déclaration de Joe Biden, la voici. Les Américains honorent tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui commençait il y a 106 ans aujourd'hui. C'est ce qu'il a écrit. Nous affirmons l'histoire, nous ne faisons pas cela pour accabler quiconque, mais pour nous assurer que ce qui s'est passé ne se répète jamais. Gérard Karagosyan, je voudrais qu'on profite de ce coup de focus, évidemment, pour faire mieux connaissance avec les Arméniens qui sont à Toulouse. Vous nous avez parlé de la diaspora, ils sont présents un peu partout dans le monde entier, ces Arméniens. Vous m'avez dit en préparant cet entretien, je crois qu'ils sont à peu près 1500 familles à Toulouse. Alors, qui sont-ils, ces Arméniens? Et puis surtout, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu leur histoire. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés? Pourquoi est-ce qu'ils sont ici en particulier?
Alors, moi, je suis dans la région toulousaine depuis 1980. Et en arrivant dans la région toulousaine, je me suis rapproché bien évidemment d'une association qui s'appelait l'Amicale des Arméniens de Toulouse. Mmh. Et j'ai toujours été dans cette association, donc ça fait une quarantaine d'années. Et je me suis intéressé un petit peu à l'origine des Arméniens de la région. Alors moi, par exemple, je suis arrivé en 1980, donc j'étais ingénieur dans une société à Paris. J'ai été muté à Toulouse. Bon, ça c'est la vie, hein, les gens mutent, passent de ville en ville. Il y a des Arméniens qui sont arrivés ici comme moi. Puis il y en a d'autres qui sont arrivés beaucoup, beaucoup plus tôt. Et entre autres, il y a une histoire que l'on raconte et qui est vraie. Un des premiers Arméniens qui est arrivé dans la région, c'est un dénommé Manouk Semergian.
Ah oui, on voit son... Alors justement, je fais une petite parenthèse, pardonnez-moi, vous avez parlé de Manouk. On peut voir ce documentaire qui nous éclaire beaucoup sur l'arrivée des Arméniens dans notre région. Ça s'appelle « Le voyage de Manouk ». Ça dure 19 minutes seulement. On peut le voir sur le site de Haute-Garonne, « Mémoire des génocides ». C'est très éclairant. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à aller le voir. Pardon, Gérard, poursuivez.
Oui, je vous en prie. Alors en fait, si vous voulez aller voir ce film sur la Haute-Garonne, hier il était en première page d'actualité, mais là, pas aujourd'hui, il faut aller dans les chemins de la République, c'est une rubrique, et dans les chemins de la République, vous aurez la possibilité d'aller voir les expositions plus le film de Manouk. Et hier, d'ailleurs, avec mon épouse et des amis, nous sommes allés sur la tombe de Manouk qui est à Boulogne.
Et alors, qui était-il, ce Manouk?
Alors, Manouk, en fait, était un orphelin. Hein, donc, il a vu des choses absolument horribles. Il a vu le frat rouge de sang. Toute sa famille a disparu. Il était seul. Il a été, finalement, dans un orphelinat au Liban. Au Liban, à un certain moment, en 1922, on leur a demandé « Est-ce que vous voulez aller en France, aux États-Unis, etc. ?» On leur posait la question. Et lui disait « Moi, je veux aller en France parce que les petites Françaises, elles sont très jolies. »
C'est une bonne raison. Hein.
Voilà. Et donc, Manouk est arrivé à Marseille. Et des orphelins à Marseille ont pris un train qui a été acheminé vers Auch. À Auch, ils descendaient du train, ils allaient sous le porche de l'hôpital. Et des paysans du coin descendaient pour aller voir ces jeunes qui représentaient en fait de la main-d'œuvre pour le monde rural. Mmh. Et ils allaient voir un petit peu s'ils avaient des muscles, des bonnes dents, etc. machin. Mmh. Et puis ils leur disaient « Bon, hop, je t'emmène, tu viens à la maison. » Et ils devenaient garçons de ferme.
On est en quelle année là, Gérard Karagosyan?
Alors on est en 1923.
Donc on est vraiment après le génocide, les orphelins, ce sont les orphelins des familles qui ont été décimées. Hein.
Absolument. Et Manouk, en fait, qui était un garçon qui avait des yeux pétillants, qui avait envie de vivre, qui avait envie d'apprendre, etc., a été dans une première famille où il n'était pas très bien. Donc il est parti et il s'est retrouvé dans une deuxième famille extraordinaire. Il était vraiment le fils de la maison. Il a été élevé comme un enfant de la maison. Et il a décidé de quitter le monde rural pour devenir charpentier.
Ah oui, il a fait le Tour de France. Il a été compagnon du Tour de France.
Voilà.
En plus.
Donc il a été compagnon du Tour de France. C'est vraiment été quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et puis ce Manouk, il s'est marié avec un professeur de français, qui s'appelait Rose, et que j'ai bien sûr bien connu. Et il a appris le français, il a appris à l'écrire très correctement, et il a écrit sa vie. Mmh. Il y a un document, j'ai l'original, où Manouk a écrit sa vie. Ça n'a jamais été publié et j'espère qu'avec un des historiens qui a participé samedi, on va pouvoir éditer ce livre.
Et
Voilà.
alors Gérard Karagozian, depuis Manouk a donné lieu à une descendance, il y en a eu d'autres, des petits
Oui.
Manouk qui ont vécu une histoire semblable. Aujourd'hui, donc 1500 familles insérées dans la société toulousaine et tout autour, hein, puisque
Oui, tout autour, bien sûr,
c'est parti d'Auch,
oui.
une communauté bien vivante. Il y a d'autres lieux hein, de la diaspora arménienne, je crois qu'il y en a 500 000 en France.
Oui, on peut. Aujourd'hui, c'est à peu près 500 000 Arméniens, sachant que les Arméniens sont essentiellement dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Marseille, ils ont remonté la vallée du Rhône. Bon, on en a Avignon, il y en a Orange, Montélimar, Valence, Romans, Vienne. Puis ils sont partis un peu sur Grenoble, où il y a une communauté importante, sur Lyon et sur Paris. Voilà. C'est un axe sur lequel on trouve la majorité des Arméniens
Et alors?
en Bretagne. Dans le sud-ouest, il y en a pas beaucoup par rapport à ces fortes communautés de Lyon, Marseille et Paris. Et on va dire que en Bretagne, par exemple, il y a très peu
Il y a
d'Arméniens
peu
aussi.
d'Arméniens. Le train ne les a pas
Oui.
conduits jusque-là. Alors, des
Non.
Arméniens, il y en a 500 000 en France, il y en a 200 000 en Californie, la plupart sont en Russie ou au Liban. Qu'est-ce qui fonde, Gérard Karagozian, l'unité d'un peuple dont la plus grande partie des membres est hors du pays? Je rappelle, hein, je le dis surtout, l'Arménie, un petit pays enclavé entre la Turquie, la
Oui.
Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Comment est-ce qu'on reste unis?
Alors déjà pour la Californie, c'est 1 million d'Arméniens.
1 million, bah voyez, oui.
C'est énorme. Alors les diasporas sont très importantes bien sûr aux États-Unis, en Russie où on compte à peu près 2 millions d'Arméniens. Hein. Après il y a la France avec 500 000 et après bon les chiffres descendent. Hein, mais il y a les Arméniens sont partout. Ils sont en
Et
Australie,
qu'est-ce
ils
qui
sont
fait l'unité de ce peuple?
Alors, l'unité, si vous voulez, il y a un point commun pour tous ces Arméniens. D'abord, c'est ce qui leur est arrivé, c'est sûr. Ils ont tous la même histoire. Et d'autre part, il y a aussi la religion. Hein. Vous disiez tout à l'heure que l'Arménie a été le premier État à prendre la religion chrétienne comme religion d'État en 301. Eh bien, les Arméniens, croyants ou pas croyants d'ailleurs, mais souvent ils sont très croyants, considèrent leur Église comme un élément fédérateur. Et en fait, c'est l'Église apostolique arménienne et des prêtres arméniens, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie, en Amérique latine, etc. Et les églises ne sont pas désertes.
Les
Les
églises ne sont pas
églises
désertes et
sont pleines.
c'est
Non.
ce qui cimente hein, l'unité de ce peuple. La diaspora, je voudrais qu'on insiste là-dessus, la diaspora, elle est née exclusivement, quasiment exclusivement de ce génocide. Hein. Il y a eu des migrations avant, mais de façon
Oui.
anecdotique.
Alors, la diaspora, il y a plusieurs étapes. Il y a eu des migrations avant. Il y a eu, bien évidemment, cette migration énorme qui, après le génocide, hein. Mais il y a aussi, quand l'Union soviétique s'est écroulée en 1991 et que l'Arménie, donc, a proclamé son indépendance, ce petit pays a été, sur le plan économique et social, complètement dévasté. En plus, il y a eu un tremblement de terre en
Bien sûr.
1988 qui a été terrible. Et donc l'Arménie a énormément souffert et les gens avaient du mal à se chauffer, à manger, etc. Donc il y a eu un exode extrêmement important. À tel point que sur Toulouse, par exemple, la caractéristique de la communauté de Toulouse, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'Arméniens qui viennent de cet exode-là
Ah oui.
que d'Arméniens qui sont issus de ce génocide.
Et donc
Donc,
une communauté cimentée par l'Église, par la religion chrétienne. Je voudrais que vous fassiez un petit focus historique quand même sur cette date clé, 301. L'Arménie est la première nation à avoir adopté le christianisme comme religion d'État. C'est pas rien quand même.
non, c'est pas rien, et surtout si vous voulez que c'était un pays qui était païen et qui pourchassait les chrétiens jusqu'en 301. Et bon, l'anecdote dit que c'est un moine en fait qui avait été emprisonné à Khorvilap, c'est un monastère en face du mont Ararat, qui en fait a soigné le roi, un tiridate à l'époque.
Oui.
Et suite à ça, le roi a eu un lien d'affection très fort avec cette personne-là, qui lui a enseigné un petit peu ce qu'était la chrétienté. Et il a décrété que le pays deviendrait chrétien. Et c'est vrai que ça a marqué un peu toute l'histoire de l'Arménie, bien évidemment.
Oui.
Qui plus est, il y a eu un alphabet qui a été créé, qui est toujours en vigueur en 406. Et cet alphabet donc a permis. Aujourd'hui, il y a des archives extraordinaires sur l'Arménie. Hein, de très très vieilles archives. Bien évidemment, il y en a certaines qui ont été brûlées suite à des guerres, etc. Mais il y a des archives extraordinaires. Et il y a un lieu en Arménie qui s'appelle le Materadalan, dans lequel il y a des archives absolument fantastiques sur l'histoire de l'Arménie. Et la plupart des touristes qui vont en Arménie, d'ailleurs, vont toujours au Materadalan, où il y a des guides français qui vous expliquent un petit peu ce qu'était l'Arménie à partir du 3e siècle ou du 4e siècle. Voilà.
Alors, il n'y a pas d'église arménienne, à ma connaissance, hein, à Toulouse. Où est-ce qu'elle s'exprime aujourd'hui, la foi des Arméniens?
Alors, il n'y a pas d'église dans notre région pour des raisons, je dirais, un peu économiques.
Oui.
D'abord, un, il faut trouver une église, ça c'est jouable, hein. Deux, il faut l'entretenir, c'est déjà plus compliqué. Trois, il faut un prêtre. Ce prêtre, il doit avoir un peu de sous pour vivre, etc. Et on aurait pu imaginer un prêtre à Toulouse qui rayonnait sur toute la Haute-Garonne et voire au-delà. Et aurait pu animer une école. On a fait une tentative qui a failli aboutir il y a 20 ans avec un évêque qui arrivait de Jérusalem à la retraite. Ça ne s'est pas fait. Bon, c'était un peu compliqué. On a essayé d'imaginer encore il y a 4 ans avec l'évêque arménien de Paris, avec d'autres communautés, hein, comme Pau, Montauban, Cahors, etc. Et nous n'y sommes pas arrivés. C'est très compliqué. Du coup, on a une relation forte avec le diocèse de Marseille.
Ah
Et
oui.
c'est un prêtre de Marseille, un jeune prêtre d'ailleurs assez extraordinaire, le père Durtad, qui vient de temps en temps à Toulouse pour faire une messe, soit à l'occasion d'un mariage, soit à l'occasion d'un décès, et pour notre Noël arménien qui a lieu le 3e dimanche du mois de janvier. Et là, c'est une grande fête, hein, puisque il y a la messe, mais après il y a un repas, c'est festif. Nous avons une école d'arménien qui marche avec 3 classes à Toulouse et les enfants préparent un petit spectacle. Voilà un petit peu ce qui. Et puis il y a des Arméniens qui se déplacent. Hein. Moi, je vais à Valence, donc je peux aller à la messe. Il y en a qui vont à Marseille, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme manque.
Il y a un énorme manque. Un grand merci en tout cas à Gérard Karagosian de nous
Je vous en
avoir
prie.
éclairé
Ouais.
sur ce peuple attachant, meurtri hein, dans son histoire. Et puis
Ouais.
on sait que ça n'est pas totalement terminé. Malheureusement, l'histoire n'est pas
Non.
totalement refermée. Et on se souvient des événements qui ont envahi le Haut-Karabakh en septembre
Oui.
2020. Merci en tout cas de nous avoir éclairé. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à vous rendre sur le site du département de Haute-Garonne, Haute-Garonne, mémoire des génocides. Vous retrouverez notamment le voyage de Manouk, mais également la rediffusion de la table ronde dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Gérard.
Oui, merci, bonne journée à vous, Isabelle.